Je vous invite à entendre une première lecture dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40, les 11 premiers versets.
Réconfortez, oui, réconfortez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui qu'elle en a fini avec les travaux forcés et qu'elle a purgé sa peine, car le Seigneur lui a fait payer le prix complet de toutes ses fautes. J'entends une voix crier, dans le désert, ouvrez le chemin au Seigneur, dans cet espace aride, frayez une route pour notre Dieu. Que le niveau des vallées soit relevé, que les montagnes et les collines soient abaissées, que les reliefs soient changés en plaine et les hauteurs en larges vallées. La gloire du Seigneur va être dévoilée et tout le monde verra que la bouche du Seigneur a parlé. J'entends une voix qui dit « Fais une proclamation ». Mais je réponds « Laquelle ?» La voix reprend « Celle-ci ». Le sort des humains ressemble à celui de l'herbe. Ils n'ont pas plus de vigueur que les fleurs des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane quand le souffle du Seigneur est passé par là. C'est bien vrai. Le peuple a la fragilité de l'herbe. Oui, l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Peuple de Sion, monte sur une haute montagne. Peuple de Jérusalem, crie de toutes tes forces. Tu es chargé d'une bonne nouvelle. N'aie pas peur de la faire entendre. Dis aux villes de Juda, votre Dieu est là. Voici le Seigneur Dieu. Il arrive plein de force. Il a les moyens de régner. Il ramène ce qu'il a gagné. Il rapporte le fruit de sa peine. Il est comme un berger qui mène son troupeau et le rassemble d'un geste du bras. Il porte les agneaux contre lui et ménage les brebis qui allaitaient des petits.
Et la deuxième lecture sera tirée de l'évangile de Luc au chapitre 3. Je lis du verset 15 au verset 22. Le peuple attendait, plein d'espoir. Chacun pensait que Jean était peut-être le Christ. Jean leur dit alors à tous, « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient en sa main la pelle à vanner pour séparer le grain de la paille, et il amassera le grain dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. » C'est en leur adressant beaucoup d'autres appels encore que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Cependant, Jean fit des reproches à Hérode, qui régnait sur la Galilée parce qu'il avait épousé Hérodiade, la femme de son frère, et parce qu'il avait commis beaucoup d'autres mauvaises actions. Alors Hérode commit une mauvaise action de plus. Il fit mettre Jean en prison. Alors que tout le peuple était baptisé, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie. » Ô Seigneur, ta parole c'est la vérité, alors rends-nous saints par ta vérité. Amen. Le peuple attendait plein d'espoir. Qu'attendons-nous aujourd'hui ? La fin de la pandémie, j'en suis sûr. L'homme ou la femme providentielle qui sera élu, choisi ou un, pour nous apporter justice, liberté, prospérité, sécurité, et le tout, si possible, en baissant les impôts, n'est-ce pas ? Si attente il y a, naît-elle d'un désir qui se creuse en nous à partir d'une insatisfaction, d'une frustration, d'un manque, d'un pas assez qu'il faudrait essayer de combler? Ou naît-elle cette attente à partir d'un trop-plein, d'un excès, d'un sentiment de saturation, d'étouffement, de paralysie? Bien entendu, chacun répondra en fonction de son vécu, de son existence, de sa réalité, mais je vous propose de résumer le sentiment général par un retentissant annamar, non ? Annamar. Ce cri du fond de notre être vient dire un divorce d'avec la réalité, le monde tel qu'il est. Et ce divorce d'avec sa propre vie, en amar, prend de multiples formes. La nostalgie pour certains, hier c'était mieux. L'idéalisme pour d'autres, imaginons un monde meilleur. Certains se réfugient dans un arrière-monde fantasmé. Et c'est pourquoi complotistes et fanatiques religieux sont souvent si proches. D'autres se replient sur leur monde intérieur, déconnectés des autres et du dehors, vécus comme hostiles, dangereux. Il arrive même qu'on entende dire que l'homme d'aujourd'hui n'attend plus rien, pris dans une sorte de nihilisme aquaboniste, désabusé, un peu cynique. Et l'individualisme en serait la pointe visible de cet iceberg, avec sous sa ligne de flottaison tout un cortège de refus, refus de voter, refus de se faire vacciner, refus de participer à l'effort commun, refus de payer des impôts, refus d'accueillir des étrangers. J'en passe et des meilleurs. Et pourtant, chaque personnalité, chaque courant, chaque discours politique que l'on entend, et on va en entendre de plus en plus, est porteur d'une envie, d'une attente, d'un rêve. Défendre son identité et sa culture que l'on croit, que l'on sent menacée. Rechercher une réussite économique et financière. Rêver une terre habitable où il ferait bon vivre tous ensemble. Combattre pour la justice sociale, le partage des richesses. Conquérir une égalité entre tous les hommes et toutes les femmes, dans un monde sans discrimination. Qui dira que ces attentes des hommes sont illégitimes? Qui pourrait privilégier l'une par rapport à l'autre? Donc le peuple attendait, plein d'espoir. Jean-Baptiste, le précurseur, annonce: quelqu'un vient. En quoi est-ce une bonne nouvelle, puisqu'on nous dit que c'est une bonne nouvelle? En quoi cela répond-il à notre attente d'une réalité différente? Petite remarque en passant, l'homme d'aujourd'hui n'attend pas grand-chose de l'Église et des religions en général. On peut même dire qu'il s'en méfie, n'est-ce pas? Qu'elle cesse de violenter les femmes et les enfants et qu'elle se taise. Et surtout qu'elle sorte de l'espace public. Laïcité oblige. Vous existez, c'est entendu. Mais laissez-nous tranquilles, semble dire l'homme d'aujourd'hui. Et il faut bien constater la très grande indifférence de nos contemporains et de nos enfants, quand ce n'est pas une opposition, voire une hostilité vis-à-vis des institutions et des discours religieux qu'ils trouvent en général, il y a des exceptions bien sûr, mais en général qu'ils trouvent totalement insignifiants. Sans importance réelle, parce que sans impact sur la réalité, ne répondant aucunement à leurs attentes. La foi, la religion, l'Église, c'est pour, pense-t-il, l'intériorité de l'âme, ou pour après la mort. C'est pour s'attendrir sur la nostalgie de notre enfance auprès d'un sapin, ou pour rêver à un monde idéal qu'on n'atteindra jamais. Mais ce n'est jamais, bizarrement, ce n'est jamais pour ici et maintenant, pour répondre à nos attentes, pour transformer notre réalité, notre existence, bien concrète. Attendez, dit Jean-Baptiste. Attendez parce qu'il y a une grande différence entre lui et moi. Moi, je vous baptise dans l'eau. Mais celui qui vient est bien plus fort que moi. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Vous l'entendez, Jean-Baptiste utilise ici le discours apocalyptique de sa tradition juive. Il convoque l'imaginaire du jour du Seigneur, dies irae, jour de colère, de terreur devant le jugement dernier. Dieu lui-même vient avec une pelle avanée mettre un terme à cette réalité qui ne satisfait personne. Et pour cela, il vient avec force et puissance changer cette réalité qui nous déplaît tant. Lui, il n'utilise pas les moyens dérisoires tels que le pistolet à eau de Jean-Baptiste. Sa puissance, à lui, elle vient d'en haut. Lui seul, alors, peut faire bouger les lignes, débloquer la situation, nous sortir de la nasse, nous délivrer de la paralysie. Ce n'est pas un quelque chose que l'on attend et que l'on gagne, mais c'est un quelqu'un qui nous arrive. Vous avez entendu la parole du prophète Ésaïe qui dit « Votre Dieu est là, voici le Seigneur Dieu, il arrive plein de force, il a les moyens de régner. » Et Jean-Baptiste poursuit, il amassera le grain dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. Bien sûr, tout n'est pas perdu, tout n'est pas mauvais, tout n'est pas à jeter à la poubelle dans notre réalité. Mais il y a quand même un tri à faire, n'est-ce pas ? Nous sommes en attente de justice, de liberté, de vérité, de sécurité. Alors il faut trier, choisir. Et chacun de nous se retrouve un jour ou l'autre dans l'isoloir de sa conscience avec la nécessité de faire un choix, parfois difficile et douloureux, sous-pesé, évalué, mesuré, comparé. Ça en garde, ça en brûle, ça je fais, ça je ne fais pas. Où trouver la vérité ? Qui peut être sûr ? La parole de Jean-Baptiste vient apaiser cette quête angoissante de celui qui veut faire le tri et qui cherche la pureté et la vérité. Arrête de scruter ton nombril. Arrête, mon frère, ma sœur, de scruter tes lâchetés, tes engagements, tes choix, tes compromissions, tes actions. Celui qui vient est celui qui fera le tri dans ta vie. Cela ne t'appartient pas. L'arbre de la connaissance ultime du bien et du mal n'est toujours pas à notre disposition ni à notre portée. Laisse le bon grain pousser à côté de l'ivraie, inéluctablement. Nous vivons tous dans ce clair-obscur d'un débat éthique qui ne trouve aucune réponse définitive. La question n'est pas de savoir si nos choix sont bons ou mauvais, plus ou moins. Ils sont immanquablement l'un et l'autre à la fois. L'enjeu n'est pas celui-là, il est plutôt d'annoncer une présence. Il vient. Il est là. Rendre le Christ présent au cœur du monde, ici et maintenant, c'est cela notre rôle, notre tâche, notre mission, notre vocation. Il vient, il est là. En Jésus, notre Dieu fait irruption dans notre vie. La parole est venue dans le monde est venu à l'existence par elle, et pourtant le monde ne l'a pas reconnue, dit l'évangile de Jean. Elle est venue dans son propre pays, et les siens ne l'ont pas accueillie. Alors Hérode commit une mauvaise action de plus, il fit mettre Jean en prison. Se dévoile ici la volonté farouche, constante, de faire taire le messager. Il est enfermé. Il sera décapité comme l'autre a été crucifié. En quoi était-il si dérangeant, ce Jean-Baptiste ? À cause des reproches qu'il fait à Hérode à propos de son éthique détestable, nous rejetterions Dieu, le monde rejetterait Dieu parce qu'il nous rappellerait trop crûment le licite et l'illicite, le permis, le défendu, le bien, le mal. Nous refuserions la présence de Dieu parce qu'il promet la fessée aux enfants passage et qu'il n'apporte des jouets qu'aux enfants obéissants. Non, non, ce n'est pas pour cette raison que Dieu est rejeté dans notre monde. Le messager est menacé parce qu'il annonce la présence de celui qui bouscule une réalité bien en place. C'est lui ou eux. Il y a là un combat à mener et ceux qui tiennent le champ ne sont pas du tout d'accord pour laisser la place, pour laisser leur place. Ceux qui sont assis sur la branche ne vont pas la scier sciemment. Ils vont tout faire pour éliminer le nouveau menu. La puissance s'oppose à la puissance et que le plus fort gagne. De fait, nous refusons, et le monde refuse cette interruption intempestive de Dieu dans notre vie en le rejetant aux confins de l'existence, aux limites. Dieu est reconduit à la frontière de notre existence, dans un arrière-monde métaphysique au-dessus de la physique, ou dans l'intériorité d'une conscience religieuse et d'une prière coite. Permettez-moi de citer quelques mots de Paul Ricoeur à ce sujet. « Nous sommes, dit-il, dans une phase de la culture où Dieu a été repoussé aux confins du monde. Dans la dernière phase, on essaye de le retenir comme réponse aux questions insolubles. On recourt à lui pour dénouer une situation intellectuelle non résolue et ce Dieu relégué à l'extérieur de la vie, dans une frange de plus en plus étroite, apparaît comme le plus lointain et le plus réduit. Quand Dieu a été relégué hors du monde et de la sphère publique de la vie, il a été retenu dans la sphère de la vie personnelle, intime, privée. Le Dieu bouche-trou du monde est aussi le Dieu des expériences limites de l'homme, mort, péché, prière, souffrance. » Et Dietrich Bonhoeffer enfonce le clou depuis les murs de sa prison en 1945, et je le cite, « Dieu n'est ni le réfugié des frontières métaphysiques, ni le blotti des intériorités solitaires. Il dit « J'aimerais parler de Dieu non aux limites, mais au centre, non dans la faiblesse, mais dans la force, non à propos de la mort et de la faute, mais dans la vie et dans la bonté de l'homme. » Voilà ce qui serait une bonne nouvelle. Alors le ciel s'ouvre, l'Esprit Saint descend sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Ce n'est pas une parole magique, mais une réalité tangible, une forme corporelle. L'intervention du Saint-Esprit est très différente de ce que Jean-Baptiste imaginait. Là où il était question de colère, de rupture, de nettoyage par le feu, il n'y a qu'une parole qui prend la forme d'une colombe et qui dit la joie, le bonheur, l'apaisement. Oui, l'apaisement, la colombe. Le déluge de colère n'aura pas lieu. Le combat contre la réalité prend fin maintenant. Réconfortez, oui, réconfortez mon peuple, dit votre Dieu dans le prophète Ésaïe. Avec Noé, Dieu avait pris un engagement de paix avec toute la terre et avec chacun d'entre nous. Avec Jésus, il réalise cette promesse. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve toute ma joie. Le baptême, c'est ce geste posé sur l'homme qui dit que sa vie est belle et qu'elle a été conçue pour la joie. C'est son programme, c'est sa prédestination, c'est son salut. Ici et maintenant, voilà la bonne nouvelle qui nous annonce la réconciliation avec la réalité et avec le corps. Il n'est pas question de fuir, de détruire ce monde pourri, foutu, méchant. Il s'agit de l'aimer et de s'y réjouir. En toi, j'ai mis toute ma joie. Il est de bon ton de railler les débats christologiques des grands conciles œcuméniques Nicée, Constantinople, Éphèse et Chalcédoine, surtout Chalcédoine, qui affirment l'unité sans confusion des deux natures du Christ, la nature humaine et la nature divine. Et il est facile d'y voir des débats picrocolins entre théologiens qui inventent ce qui n'est pas dans la Bible et qui s'engueulent sur le sexe des anges. Il est très important, au contraire, de réaffirmer cette unité sans distinction ni confusion qui réaffirme que l'Évangile refuse le dualisme platonicien d'une nature terrestre qu'il faudrait détester pour s'ouvrir aux réalités célestes. Vous n'êtes pas ici dans l'antichambre du royaume. Vous êtes dans le monde, les deux pieds dans la glaise, et c'est ce monde qu'il faut aimer. Et elle réaffirme avec force que l'Évangile est au contraire une parole d'apaisement et de réconciliation entre ce que je crois et ce que je vis, entre la terre et le ciel, entre les intentions et les réalisations, entre la foi et la raison, entre Dieu et ma vie. Elle réaffirme qu'il n'y a rien à attendre, à espérer, qui nous ferait fuir notre réalité. Cette réalité terrestre que Dieu aime tant et qu'il assume pleinement. Voilà pourquoi l'arianisme est une hérésie puisqu'il refuse la nature divine du Christ. Voilà pourquoi la docétisme est une hérésie puisqu'en miroir, il refuse la nature humaine du Christ. Voilà pourquoi Jésus est né d'une femme, il a vécu la vie d'un homme normal, il est mort et il est ressuscité. Voilà pourquoi le symbole des apôtres affirme avec force la résurrection de la chair. Oui, de la chair, parce que Dieu est venu sauver ce qui est chair. Humanité, réalité. Il aime le monde. Il nous aime. En toi, j'ai mis toute ma joie. Il n'est pas venu nous aider à fuir le monde, mais à le sanctifier par sa présence, ici et maintenant, dans notre vie. Apaisement de cette frustration et de ce ras-le-bol. Fais la vie, la paix avec ta vie. Fais la paix avec ta réalité. Fais la paix avec le monde. Fais la paix avec Dieu. Amen.